Chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Je suis j'étais un ancien paroissien de cette paroisse il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis, comme j'habite très loin en banlieue, j'ai fini par retrouver une autre paroisse de banlieue. Mais je reste de cœur avec cette paroisse libérale du Foyer de l'âme, où j'ai souvent prêché d'ailleurs peut-être 40 ou 50 fois. Je suis heureux de revenir vous retrouver aujourd'hui. La grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle et tout à fait profane des Grecs, charis humine, la grâce, la bienveillance soient avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom aleichem, la paix soit avec vous. Par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel, en commençant nos cultes réformés par l'expression de l'apôtre, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui du bonheur, de la grâce du Second Testament, mais aussi que ce culte s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion comme à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Chers amis, que la grâce et la paix soient avec nous tous. Amen. Pour notre louange, je vous lis une prière d'un père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Nazianze, qui est un père cappadocien qui a vécu au IVe siècle. Nous te bénissons, Père des Lumières. Tu dissipes les ténèbres pour créer un monde lumineux, un monde d'ordre et de beauté qui porterait ta ressemblance. De raison et de sagesse, tu éclairas l'homme. Tu l'illuminas du sceau de ton image, pour que, dans ta lumière, il voie la lumière et que tout entier, il devienne lumière. Tu fis briller au ciel d'innombrables lumières. Tu ordonnas au jour et à la nuit de s'entendre pour partager le temps, tour à tour, paisiblement. La nuit met fin au travail du corps fatigué. Le jour appelle aux œuvres que tu aimes et nous apprend à fuir les ténèbres et à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Amen. Nous chantons le psaume 99, les strophes 1, 2 et 4. Alors je crois que ce psaume n'est pas très connu dans cette paroisse et Madame l'organiste va bien vouloir chanter une strophe avant que nous chantions nous-mêmes.
Thank you.
Je vous lis une partie de la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 16. Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le bien parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous pouvez dire et faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Seigneur, j'ai manqué ton rendez-vous d'amour quand tu m'attendais au coin de mon désert. Je te savais posté à ce carrefour, présent pour me parler. Et moi, je courais comme un voleur, d'une idée à l'autre, d'une consommation à l'autre, d'un papier à l'autre. Et moi, je ne trouvais plus ce temps d'arrêt pour t'écouter. En moi, je ne trouvais plus cet espace où tu peux prendre place. J'ai manqué ton rendez-vous d'amour quand tu m'attendais au coin de mon désert. Peu à peu, j'ai grignoté le temps et l'espace pour t'accueillir et te recevoir. Et je t'ai tenu pour peu de choses. Viens, Seigneur, viens me pardonner. Amen. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse, je vous ouvre un chemin et un avenir. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donnerai la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Amen. Je vais vous lire une confession de foi qui émane du Conseil œcuménique des Églises. Et vous verrez, elle n'est pas si mal. En particulier, elle ne dit pas « nous croyons en Dieu, point la ligne ». Elle explique en quel Dieu nous croyons. Elle ne dit pas « nous croyons en Jésus-Christ ». Elle explique en quel Jésus-Christ nous croyons. En plus, les phrases sont belles, presque libérales. Nous croyons en un Dieu qui est pour l'homme et qui veut son bonheur, mais qui est au-delà de l'homme. Un Dieu dont la parole est nécessaire à notre vie et dépasse notre mort. Un Dieu qui est proche mais différent, qui vient à nous quand nous le cherchons et qui demeure Dieu quand nous le quittons. Croyons en ce Dieu qui crée et recrée le monde contre le chaos et la dislocation, contre l'obscurité et la haine. Nous croyons en Jésus-Christ qui a montré pleinement Dieu à l'homme, qui a troué le ciel de nos ignorances, qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour guérir, qui est mort comme nous, victime de l'égoïsme des hommes, qui a été ressuscité pour rendre manifeste la bonté de Dieu et le projet de Dieu en faveur de nous tous. Nous croyons en l'Esprit Saint qui continue d'œuvrer sur la terre comme la graine continue de pousser au travers de l'hiver. C'est ce même Esprit qui porte des fruits différents chez chacun, qui va et vient comme le vent sur les falaises. Amen. Ô Esprit Saint, tu es la lumière, tu es la parole, dès le commencement. Tu entraînes les âmes, tu enflammes les cœurs et fais prendre des résolutions inattendues et courageuses. Tu opères en nous ce que bien des sermons n'avaient pas dit bien clairement, que pas un jour ne passe sans que nous t'invoquions. Enveloppe-nous dans la lumière de Dieu. Amen. Je peux vous lire, pour éclairer la prédication de tout à l'heure, la fin du sermon sur la montagne ou du sermon dans la plaine, selon l'évangile de Luc, au chapitre 6, à partir du verset 27. Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous font injure. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et contre celui qui t'enlève ton manteau, ne défends pas même ta tunique. Le texte qui fera l'objet de la prédication, qui est la suite de ce sermon sur la montagne, au chapitre 7 du livre de Luc, les versets 1 à 10. Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un esclave, malade et sur le point de mourir. Un esclave qu'il appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques anciens des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment et disaient « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui nous a bâti notre synagogue. » Jésus faisait route avec eux, Mais déjà, il n'était plus très loin de la maison quand le centurion envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé autorisé à venir jusqu'à toi. Mais dis seulement un seul mot, et mon esclave sera guéri. Ainsi, moi, je suis placé sous une autorité et avec des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » En entendant ces mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Nous allons chanter le cantique 151, les strophes 1, 2, 3 et 4. curieuse histoire de ce centurion étranger, représentant du pouvoir occupant, qui aime la nation juive, qui a fait beaucoup pour elle, qui aime son esclave, et qui a un grand respect pour Jésus et a confiance en lui. Et de son côté, Jésus n'a jamais vu ni l'esclave ni le centurion, mais il est plein d'admiration pour la foi de ce dernier. Ainsi, les dialogues et la guérison s'établissent par personnes interposées et à distance. Et au-delà des barrières politiques entre occupants et occupés, des barrières sociales entre esclaves et hommes libres, tout le monde se respecte et s'apprécie. Et cette atmosphère de sympathie et de confiance est favorable à la guérison du malade. Étrange guérison à distance parce que l'usage était de toucher la personne malade directement, comme nous le voyons à bien d'autres endroits des évangiles. Et par exemple au verset suivant que je ne vous ai pas lu, qui raconte l'histoire de la résurrection du jeune homme Anaïm, eh bien Jésus est conduit à toucher la civière pour que le miracle se produise. Mais ici, il s'opère plus simplement à la suite de paroles aimables échangées sur la route. On ne sait donc pas très bien qui est l'auteur de la guérison. Jésus ne rencontre ni le centurion ni le malade et ne dit qu'une seule phrase. C'est vraiment un miracle qu'une guérison puisse survenir dans de telles conditions étranges. Le centurion est un païen qui a du respect pour Jésus et qui aime son esclave, ce qui n'était certainement pas le cas de tout le monde. Et de plus, il a une forte sympathie pour la nation juive. Peut-être se convertira-t-il un jour pour grossir la masse des pagano-chrétiens, comme Luc, lui-même d'origine païenne, est venu grossir plus tard la masse des chrétiens. Il est assez rare dans les évangiles que soit décrite une telle estime réciproque entre païens et juifs, entre occupants et occupés. Nous sortons avec cette histoire du cadre strict du monde juif pour déborder, grâce à l'occupation romaine, vers d'autres nations. Nous ne nous rendons pas toujours assez bien compte que le christianisme ne se serait pas aussi facilement répandu dans le monde de la Méditerranée si la stabilité de l'Empire romain, ce qu'on a appelé la Pax Romana, et son étendue même n'avaient pas indirectement aidé à la propagation du christianisme. Quoi qu'il en soit, Luc aborde ici un sujet qui lui est cher et qui s'épanouira bien dans son second livre des Actes des Apôtres, mais qui traduit le fait que vers les années 80, le christianisme s'est déjà bien répandu dans le monde païen autour de la Méditerranée, à la suite des voyages de l'apôtre Paul, mais aussi d'autres missionnaires qui sont moins connus. Jésus, le Christ, est venu pour porter aussi la bonne nouvelle aux païens, à tout ce monde qui n'est pas spécialement juif, mais qui peut connaître aussi des sentiments de miséricorde et de compassion, comme ce centurion, qui cherche donc à consolider son espérance en se tournant vers plus de solidarité, alors que la religion romaine était surtout orientée vers le culte de l'empereur. Le texte nous dit que le centurion a entendu parler de Jésus. Mais qu'a-t-il entendu exactement? Nous ne savons pas. Certainement a-t-il été impressionné par quelques miracles et aussi par ce que Jésus disait aux foules. En effet, juste avant cette rencontre avec le centurion, Luc a placé le fameux sermon dans la plaine que l'on appelle plus facilement le sermon sur la montagne. Ce sermon parle de la générosité envers le prochain, comme vous savez, et aussi de l'amour des ennemis, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Ceci paraît bien approprié à la situation, car les Juifs et les Romains sont ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, vient de dire Jésus. On peut avoir des ennemis parce que les peuples s'opposent, parce que les politiques l'exigent, parce que les chefs des peuples veulent agrandir leur empire. Mais individuellement, la charité est là pour poursuivre son œuvre en traversant les lignes de front, comme on en voit des exemples dans toutes les guerres. Ici, l'Évangile nous montre que l'on doit aimer ses ennemis, que l'on soit occupant ou occupé, oppresseur ou oppressé. Je voudrais revenir sur deux points particuliers qui me paraissent importants dans cette histoire. D'ailleurs, ces deux points sont très liés. Le premier, c'est l'importance de la parole. Le centurion n'a jamais vu Jésus, il ne cherche d'ailleurs pas à le voir. Au contraire, d'ailleurs, il dit à Jésus de ne pas s'approcher. Mais il en a entendu parler, nous dit le récit, et Jésus est déjà connu par sa parole. Le centurion a compris que cette parole est forte, puissante, plus que la sienne, lorsqu'il donne des ordres. Je dis à l'un, va, et il vient. Pour cet officier discipliné, Jésus a certainement une autre autorité lorsqu'il parle, plus forte que la sienne, qui est déjà grande. Cet homme puissant, doté de grands pouvoirs dans la cité, reconnaît qu'une puissance plus essentielle, parce que venant d'une autre nature, est celle de ce Jésus, qui n'appartient à aucune hiérarchie, à aucun ordre établi, à aucun pouvoir, mais prêche, au contraire, un renversement des hiérarchies. Le plus grand sera le plus petit, le premier sera le dernier. Ne nous occupons plus des puissants, des riches et des bien portants, comme on le voit encore dans une certaine presse aujourd'hui. Occupons-nous des esclaves, des pauvres, des malades et des petits. Donc, opposition entre une parole de soldat qui prêche l'ordre contre une parole de prophète qui prêche la justice. Paroles de pouvoir contre paroles d'humanité, qui peuvent s'ajouter l'une à l'autre, comme dans ce récit, lorsqu'il s'agit de sauver les esclaves qui se meurent. Rencontre de deux paroles, celle du ciel et celle de la terre, qui permet cette guérison du plus humble des habitants de ce pays, probablement un étranger, sans beaucoup de papiers, mépris en affection par les représentants de ces deux pouvoirs, le politique et le spirituel. La parole est de Dieu, peut-être Dieu lui-même, comme dit le prologue de Jean, si elle permet aux ennemis de se reconnaître, de s'apprécier les uns les autres pour s'occuper des petits. Le deuxième point qui m'a intéressé et qui découle du premier, c'est la forme de la foi de ce centurion. Cette foi n'éprouve pas le besoin de rencontrer directement Jésus. Elle est donc assez remarquable. D'aucuns seraient ravis de recevoir Jésus, de vivre un moment avec lui, de l'avoir pour eux, de le faire entrer dans leur intimité, de pouvoir dire « Il est venu me voir, il m'a choisi ». Voilà ce que je puis vous dire de sa part. Je pense à cette fraction de nos coreligionnaires, qui n'est pas vraiment du côté libéral, mais qui existe quand même, qui dit « Ah ben j'ai rencontré Jésus tel jour, il m'a dit telle chose ». D'ailleurs, c'est aussi arrivé à Paul. Et l'expression paulinienne « être en Christ » ne signifie-t-elle pas être en une communion forte, une sorte d'intimité entre Jésus et la personne? Et d'ailleurs, l'apôtre s'exclame, « N'ai-je pas vu le Christ ?» Ici, la position du centurion est très différente. « Je n'ai pas besoin de te voir. Ne te dérange pas. Ne perds pas ton temps à venir jusqu'à moi, à venir me toucher, à venir me convertir. Seigneur, ne te donne pas cette peine. Ne te tourmente pas. Je ne le mérite pas. Je suis trop petit pour me permettre de t'avoir pour moi. Réflexe d'humilité, dis seulement un mot, une parole. Dis seulement un mot. C'est le mot « logos » qui est employé ici. C'est plus qu'un mot. Le logos, c'est aussi la sagesse. C'est aussi l'esprit de Dieu. Dis seulement une parole de sagesse. Le centurion n'a pas besoin du Jésus en personne. Il n'a pas besoin de la personne de Jésus. Il n'a pas besoin de sa présence réelle, comme disait Calvin. Mais il a besoin de la sagesse qu'il prêche et qu'il représente. Là est sa foi qui a plus besoin d'entendre que de voir. Jésus reste donc éloigné du malade et du centurion et ne fait que reconnaître la foi du centurion, cette foi qui lui fait dire quelque chose comme cela. Je parle en donnant des ordres pour la vie courante, pour la Pax Romana, pour la paix dans la cité, afin de maintenir cette domination des Romains. Mais toi, tu parles en prêchant la générosité, le don de soi, le salut de tous les malades et de tous les blessés de la terre. C'est quand même autre chose. Parle encore. Dis seulement une parole de sagesse, et mon esclave sera guéri. Le centurion n'a donc jamais vu Jésus, et d'ailleurs celui-ci disparaît dans la nature, mais disparaît du récit, avant que l'on ait pu constater la guérison. Comme disait Jésus à Thomas l'incrédule, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Et heureux sommes-nous aussi, si, comme le centurion, nous ne convoquons pas Jésus chez nous, nous ne l'accaparons pas. Si nous nous contentons de sa parole de sagesse, celle qui sauve, parce qu'elle se soucie de tous ses esclaves, de notre civilisation. Amen.
Bonjour, notre pasteur Vincent Hubac est absent, il est pris par des activités qui sont liées à l'association Les Morts de la Rue, dont vous savez que c'est une de ses activités fétiches, favoris, tristes. Mais... Merci à Henri Persaud d'être venu le remplacer aujourd'hui avec cette prédication sur le centurion. Merci à Elisabeth pour avoir accompagné le culte à l'orgue. Et c'est pas fini. Les annonces, il n'y a pas grand chose, importante mais peu de choses. Vendredi 27 à 20h, donc c'est le repas du JMJ, consacré les mythes et la Bible. Et le mythe en question, ce sera celui de l'Ascension. Et surtout, dimanche prochain, 29, ce sera l'Assemblée Générale de la paroisse. Vous êtes invités à venir nombreux. Ça peut paraître parfois un peu ennuyeux et formel, ces assemblées, mais d'abord, ça manifeste votre attachement à notre paroisse et c'est toujours une occasion de se rencontrer supplémentaire. Voilà. Merci.
Ah oui, c'est vrai, il y a la collecte, mais elle n'est pas marquée. Ah si, offrande. Donc... Nous sommes au moment de l'offrande pour l'Église. Mais alors attendez, on chante le cantique pendant l'offrande ? Ah bon, comme vous voulez. Donc le cantique, c'est le 246, les strophes 1, 2 et 3. Dernière annonce que j'ai oubliée, j'ai mis sur la table quelques-uns de mes livres, si ça intéresse certaines personnes. L'un, c'est sur la résurrection. Bon, c'est un peu difficile. Et l'autre, c'est un rassemblement de prédications que j'ai fait à droite et à gauche, notamment ici d'ailleurs, dans le passé. Nous arrivons donc à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, en regardant notre monde et tout ce qui s'y passe aujourd'hui, que de raisons de pleurer, que d'injustice, que de haine, de souffrance et de peur. Le malheur semble habiter l'humanité, le désespoir envahir nos pensées. Et pourtant, au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir l'espace de ton règne, construire des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui nous pousse à renverser, à transformer, à renouveler l'existence, pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous abandonne pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune de nous et qu'il nous garde dans son amour. Dieu est avec nous tous. Amen.
Dimanche.